VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, le monde aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel, du mercredi 20 juin 2018. Eric Manilakiza, en direct de Washington. Voici d'abord les principaux titres. Session extraordinaire du Parlement en RDC pour notamment examiner une proposition de loi pour garantir le statut des anciens chefs de l'État. Le président Kabila devra s'exprimer d'ici le 20 juillet. Journée mondiale des réfugiés, les conflits multiplient le nombre de déplacés. La situation des Grands Lacs dans cette édition. L'Érythrée et l'Éthiopie discuteront prochainement pour vivre en paix. Donald Trump a signé un décret pour garder ensemble les familles interpellées à la frontière dans 10 minutes. Votre rendez-vous du journal du Mondial 2018 en Russie, le Maroc est la deuxième équipe africaine qui n'atteindra pas les huitièmes de finale. L'Espagne joue en ce moment contre l'Iran et mène 1-0. Vous aurez les détails de Yacouba Ouédraogo. Je vous le disais dans les titres, en RDC, le discours très attendu aujourd'hui du président Joseph Kabila devant le Parlement réuni en session extraordinaire n'a pas eu lieu. Il devra s'exprimer d'ici le 20 juillet, selon l'annonce du président de l'Assemblée nationale. Le 25 juillet marque l'ouverture du dépôt des candidatures à la présidentielle jusqu'au 8 août. Les détails avec Thierry Kamundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Réuni depuis le samedi dernier au Palais du Peuple à Kinshasa, le Conseil national de suivi de l'accord, le gouvernement et la CENI discutent de l'organisation prochaine des élections en RDC après que la commission électorale ait annoncé avoir besoin de 504 jours après l'enrôlement pour sa tenue. Il s'agit donc pour la tripartite CENSA gouvernement CENI d'évaluer et de déterminer, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, la suite du processus électoral. Présentement, les travaux se déroulent en commission et les conclusions en plénière sont attendues, sauf imprévu, ce mercredi 18 octobre 2017. Pour rappel, la semaine dernière, au cours d'un échange avec les délégués de la société civile, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, avait souligné la nécessité de disposer de ce délai de 504 jours, annonce qui renvoie donc les élections à la deuxième moitié de l'année 2019 et qui a suscité de nombreuses réactions à l'opposition. Le rassemblement de Félix Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe et d'autres partis politiques d'opposition ont dit non à cette proposition de la centrale électorale.
Kinshasa. Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et au pays des hommes intègres, c'est le Burkina Faso. Les services de sécurité ont publié aujourd'hui les noms de 146 personnes activement recherchées pour appartenance au groupe djihadiste Ansarul Islam et pour des actes ou complicité d'actes terroristes. Les détails de Lionel Gahima.
En tête de la liste, Abdul Salam Diko, alias Jafar, présenté comme le leader actuel du groupe Ansarul Islam, très actif dans le nord du pays. Cinq de ses frères cadets sont également recherchés. Outre des combattants, des personnes radicalisées, des élus locaux, des leaders religieux et un enseignant figurent parmi les personnes recherchées. Parmi eux se trouve également Diko Oumarou Salou, le coordonnateur des activités d'Ansarul Islam, basé à Feretaka et à Foulseré au Mali, et Diko Oumarou Hassan, le commandant des bases de Boum Boum, localité frontalière du Mali. Toutes ces personnes sont des Burkinabés. Elles sont accusées de meurtre, d'enlèvement, d'attentats explosifs, d'attaques contre les forces de sécurité. D'autres sont accusées de fournir des renseignements, de guider ou d'héberger des combattants. Le groupe Ansarul Islam a revendiqué plusieurs attaques contre l'armée burkinabé, dont la plus meurtrière avait fait 12 morts en décembre 2016.
Lionel Runanira Gahima, au Tchad, le procureur de la République d'Iriba, dans l'est du pays, a été menacé de mort. C'est après l'assassinat ce lundi de deux accusés au sein même du tribunal de cette ville. Le président nigérien Muhammadu Buhari a approuvé le budget 2018 du gouvernement plus de 6 mois après sa présentation au Parlement. Le budget est de plus de 9 billions de naira, soit 22 milliards d'euros. Il vise à stimuler la croissance économique à la suite de la pire récession que le pays ait connue depuis plus de 25 ans liée à l'effondrement des prix du brut. C'est la journée mondiale des réfugiés. D'après le HCR, le nombre de personnes déplacées ne cesse d'augmenter depuis 5 ans à cause des conflits, n'est-ce pas, Bagassi Koura?
Dans son rapport annuel, l'agence onusienne chargée des réfugiés dit que rien que cette année, 68,5 millions de personnes ont été déplacées, c'est-à-dire chaque jour, plus de 44 000 personnes sont forcées de quitter leur maison à cause des conflits. Les déplacés internes sont les plus nombreux, avec 40 millions de personnes. Ceux qui ont fui leur pays vers d'autres pays sont plus de 25 millions. Aussi, 3 millions de demandeurs d'asile attendent de connaître leur statut. La Turquie est le pays qui accueille le plus de réfugiés, avec plus de 3 millions de Syriens qui ont fui la guerre dans leur pays. Les conflits en RDC et au Soudan du Sud font fuir les populations vers des pays proches. En Birmanie, des centaines de milliers de musulmans Rohingyas ont fui vers le Bangladesh, un des pays les plus pauvres du monde. Pour Filippo Grandi, patron du HCR, personne ne choisit de devenir réfugié, mais ceux qui sont restés chez eux peuvent choisir comment les aider.
C'était le tour d'horizon de Bagassikoura. Un Ghanéen de 19 ans s'est suicidé par pendaison la semaine dernière dans un centre d'accueil du nord de la France, dans une partie désaffectée du bâtiment. Il était arrivé de Calais il y a quelques semaines. Au Niger, plus de 16 000 déplacés civils ont été enregistrés depuis janvier dans les régions de Tillaberi et Taoua. Dans l'ouest du pays, c'est une zone instable, frontalière du Mali et théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes. L'ONU explique cette flambée de déplacés par ces attaques répétées et une intensification des conflits intercommunautaires sur la frontière avec le Mali depuis avril 2018. Au Cameroun, le gouvernement envisage plus de 12 milliards pour les besoins humanitaires en zone anglophone. Et dans cette raison, dans cette région, 74 militaires et 7 policiers ont été tués depuis le début du conflit fin 2017. C'est un conflit qui oppose les séparatistes armés aux forces de défense et de sécurité dans les deux régions anglophones du pays. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar sont arrivés à Addis Abeba. Ils doivent se rencontrer pour la première fois en 2 ans pour tenter de ramener la paix dans leur pays ravagé par la guerre civile depuis 2013. Détente entre l'Érythrée et l'Éthiopie, le président érythréen Isaias Afwerki a annoncé l'envoi prochain d'une délégation en Éthiopie pour discuter d'une paix entre les deux pays. Le point avec Morgane Guiriec.
Ce sont les signaux positifs émis par le nouveau Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui ont décidé le président Afwerki. Il a confirmé l'envoi d'une délégation pour, selon ses termes, évaluer directement les développements actuels et pour établir un plan en vue d'une action continue à l'avenir. C'est la première fois qu'Asmara répond aux ouvertures de paix d'Abiy Ahmed. Le Premier ministre éthiopien a amorcé début juin un changement de politique en annonçant son intention d'appliquer l'accord de paix d'Alger signé en 2000 avec un nouveau tracé de frontière rendant à l'Érythrée la ville de Badme. Un désaccord sur le tracé de la frontière a en partie été à l'origine de la guerre qui avait opposé l'Éthiopie et l'Érythrée de 1998 à 2000 et qui avait fait 80 000 morts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, les États-Unis ont célébré aujourd'hui la Journée mondiale des réfugiés. Washington a vanté sa tradition d'accueil des plus vulnérables. Et le président américain Donald Trump vient de signer un décret pour mettre fin à la séparation des familles de migrants qui ont franchi illégalement la frontière avec le Mexique. L'administration américaine était sous le feu des critiques. Plus de 2300 mineurs ont été séparés de leurs parents en 5 semaines. Un peu plus tôt aujourd'hui, le chef des Républicains à la Chambre des représentants, Paul Ryan, avait annoncé qu'il soumettrait au vote jeudi une loi mettant un terme aux séparations de familles et de migrants franchissant illégalement la frontière et résolvant le statut des jeunes arrivés sans papier aux États-Unis. Des diplomates du monde entier ont défendu le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après le retrait américain de cette instance que Washington a qualifié de couac anti-Israël. Un mini-sommet de crise avant un grand sommet sous tension. Les dirigeants de plusieurs pays de l'Union européenne, notamment la France et l'Allemagne, se retrouvent dimanche à Bruxelles pour tenter de trouver des solutions européennes aux questions migratoires qui les divisent. L'afflux de migrants depuis plusieurs années en Europe a provoqué un nombre incalculable de tragédies. C'est entre autres des milliers de noyés en Méditerranée et en mer Égée, ainsi que des crispations politiques et des tensions entre les pays du continent, comme l'a récemment illustré l'affaire de l'Aquarius. Voilà pour le journal, votre moment du journal du mondial 2018 en Russie, signé Yakuba Ouedraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du mondial. Que de regrets pour le Maroc. Malgré une prestation aboutie, les Lions de l'Atlas sont d'ores et déjà éliminés de la Coupe du Monde Russie 2018 suite à leur seconde défaite consécutive. La faute à un Cristiano Ronaldo encore décisif pour le Portugal 1-0. C'est l'entame de match qui aura coûté aux hommes d'Hervé Renard sur un corner en deux temps entre Bernardo Silva et João Moutinho. Cristiano Ronaldo libre dans les 6 mètres surgit pour tromper le gardien Mounir de la tête à la 4e minute. Le Maroc a pourtant présenté quelques références avec comme capitaine le puissant Mehdi Benarcia, le madrilène Achraf Hakimi et l'ancien monégasque Nabil Dira. Le Maroc a couru derrière le score durant toute la rencontre sans parvenir à trouver la faille. Mathématiquement, il n'est pas besoin d'attendre le résultat d'Espagne-Iran pour savoir que le Maroc n'ira pas plus loin que le premier tour de ce mondial russe. Son premier depuis 1998, le sélectionneur tire déjà le bilan de son parcours avec les Lions de l'Atlas, Hervé Renard.
La chose dont je suis sûr à l'heure où l'on parle, c'est que tout le peuple marocain est fier de son équipe et même très fier de son équipe. Il y a 2 ans et demi, on a commencé une aventure ensemble. On était 81e mondial. Aujourd'hui, je crois qu'on est 41e. On a réussi à se qualifier pour une Coupe du Monde après 20 ans d'abstinence pour le Maroc. Et les deux matchs qu'on a fait, on a montré qu'on était une équipe qui jouait au football. Alors certes, on n'a pas été efficace. Et je voudrais juste que vous ayez la franchise de l'écrire et que vous écriviez la vérité.
Cette élimination du Maroc a inspiré le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Les premiers matchs de la deuxième journée confirment depuis mardi l'élimination de deux équipes d'Afrique du Nord après les faux pas regrettables de la première journée qui ont vu l'Égypte puis le Maroc perdre au temps réglementaire des joutes pourtant équilibrées contre une équipe d'Iran négligée et une sélection uruguayenne maîtrisée. L'Égypte a dû jouer sa survie face à une Russie retrouvée dominatrice par 3-1. Le fait de match étant ce premier but de l'idole continentale Mohamed Salah en fin de rencontre. De son côté, le Maroc souverain en deuxième mi-temps devant le Portugal de Cristiano Ronaldo a subi l'inévitable but du monument au début de la rencontre avant de montrer ses réelles capacités 60 minutes durant. Il est en fait certain que la représentation de l'Afrique du Nord en Coupe du Monde ne se pose plus en termes de production. Sa situation géographique à la porte de l'Europe, l'implantation plus ancienne du football dans cette partie du continent, ainsi que son organisation plus moderne, lui permettent de tutoyer le monde développé et d'avoir un passage digne et rassurant lors des grands rendez-vous mondiaux. De ce fait, même si l'élimination de l'Égypte et du Maroc est pratiquement certaine, une bonne prestation de la Tunisie face à la Belgique et la poursuite de la performance sénégalaise peuvent encore sauver la participation du continent, en prime dans toute sa diversité d'expression footballistique. Alors, tous derrière nos champions encore en lice et que la fête continue. À demain.
Dans le deuxième match du jour, dans le groupe A, les 8e de finalistes sont connus. L'Uruguay a rejoint le pays hôte, la Russie, après sa victoire 1-0 devant l'Iran. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par Luis Suarez à la 23e minute.
Minute entre l'Espagne et l'Iran. Le score reste inchangé. Suivez toujours Yakuba Ouedraogo. Il y a apparemment un problème technique pour retrouver la voix de Yakuba Ouedraogo. Eh bien, je vous disais que l'Espagne joue toujours avec l'Iran. On est à la 84e minute et l'Espagne mène toujours par 1-0. Un but inscrit par Diego Costa. L'Espagne continue à pousser. Je signale que l'Iran a marqué un but mais qui a été refusé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Eric Panirakiza. Toujours avec vous, nous entamons les dossiers du jour. La Journée mondiale du réfugié est célébrée le 20 juin chaque année. Cette année, un nouveau record a été franchi. Plus de 68,5 millions de personnes ont été déplacées de force de leur pays d'origine. Et ce sont les niveaux de déplacement les plus élevés jamais enregistrés. Claire Morin-Gibourg a joint le porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest, Romain Desclou.
Mais pour nous, le HCR, la Journée mondiale des réfugiés, c'est aussi l'occasion de célébrer l'extraordinaire générosité des communautés, des individus qui accueillent ces personnes qui sont forcées de fuir. C'est l'occasion pour nous de rappeler à quel point cette solidarité est nécessaire. Pour la 5e année consécutive, nous avons atteint un chiffre record de personnes qui ont été forcées de fuir, personnes qui fuient des conflits, qui fuient la persécution. On a atteint, en fin 2017, le chiffre record de 68,5 millions de personnes forcées de fuir. Et c'est énorme, ça fait 5 ans que ce chiffre atteint des records, ça fait 5 ans que nous pensons que nous avons atteint un record et que nous devons pouvoir trouver des solutions, et ça fait 5 ans que ce n'est pas le cas. Donc ce chiffre est faramineux. Il est très important et il est étalé sur tous les continents.
Un certain nombre de ces crises sont sur le continent africain.
En effet, sur ces 60, la majorité, voire les 2/3 des personnes forcées de fuir, fuient des conflits de 10 pays. Ce qui veut dire qu'une solution sur l'un de ces pays aboutirait mathématiquement à une diminution du nombre de personnes forcées de fuir. Sur le continent africain, deux de ces crises les plus importantes sont la Somalie et sont le Sud-Soudan. Il crée des populations, des mouvements de population énormes. Il faut savoir que l'Afrique est un continent qui accueille le plus grand nombre de personnes forcées de fuir. C'est-à-dire, on parle de 6,3 millions de réfugiés. C'est en avant même de l'Europe. L'Afrique subsaharienne, elle seule, a un accroissement de 1,1 million personnes réfugiées. Donc, le continent a encore des crises qui génèrent des réfugiés, des personnes forcées de fuir. Mais il faut aussi voir le fait que l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest en particulier, est une région qui a la possibilité d'accueillir des réfugiés. En Afrique de l'Ouest, par exemple, nous avons 286 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Ce sont des personnes qui ont un accès à la protection internationale. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de faire, permettre aux personnes qui sont forcées de fuir d'avoir un accès à une protection internationale au plus proche des conflits, pour leur permettre d'éviter d'avoir à prendre des risques pour des trajets, prendre des chemins de migration mixte qui les amènent vers des dangers et des risques très importants.
Romain Desclou, porte-parole du HCR pour l'Afrique de l'Ouest. Regard sur le géant des Grands Lacs, le pays de Patrice Lumumba. Vous l'avez compris, destination donc dans l'est de la RDC, le pays qui accueille beaucoup de réfugiés, notamment burundais. Certains qui étaient dans le camp de Kamanyola ont été transférés au Rwanda avant d'être refoulés vers leur pays d'origine. La correspondance de Ernest Muhero, notre correspondant à Bukavu.
Selon Augustin Boulimuntu, chef d'antenne de la Commission nationale pour le réfugié CNR Bukavu, à ces jours, plus de 80 000 réfugiés rwandais et burundais vivent au sud Kivu. Parmi eux, plus de 45 300 réfugiés burundais. Le HCR et la Commission nationale pour le réfugié CNR procèdent à l'enregistrement biométrique des réfugiés rwandais en territoire des Fizi et Mwenga. Selon Augustin Boulimuntu, un centre d'enregistrement biométrique est ouvert à cet effet à Minembwe.
Actuellement, la CNR a collaboré. En collaboration avec les HCR, nous sommes dans l'activité de récolte des données sur tablette et l'enregistrement biométrique dans le cadre des réfugiés rwandais. Parce que nous avons un grand nombre dans les territoires de Mwenga et les territoires de Fizi. Là, nos équipes sont descendues pour essayer d'enregistrer et remettre les attestations des réfugiés à ces réfugiés qui sont là. Pour les Burundais qui sont dans les camps de Lusenda et Mulongwe, ils sont déjà passés à l'enregistrement biométrique et on a remis les cartes. La communauté internationale, tout simplement, c'est toujours que qu'on fait des plaidoyers pour venir à l'aide à cette catégorie de personnes qu'on a accueillies à bras ouverts. Et parce que vous savez que si quelqu'un vit en dehors de chez soi, il est toujours à la quête de quoi vivre.
Notre source ajoute que depuis le début de l'année 2018, la CNR avec les HCR ont déjà rapatrié 170 réfugiés rwandais pour un total de 2100 rapatriés attendus. En 2017, 6597 réfugiés rwandais ont été rapatriés au Rwanda selon les HCR. La problématique des réfugiés dans la région région des Grands Lacs est complexe. L'instabilité politique des part et d'autre des frontières dans la région du Grand Lac ont entraîné dans l'histoire de la région des mouvements de réfugiés. À Bukavu, ou Vira et leur environ, l'on assiste à un phénomène de réfugiés urbains qui certains font des études, d'autres vivent des travaux des débrouillardistes, le commerce, les travaux de construction, le service dans les hôtels et restaurants et la prostitution. Selon la CNR Bukavu, on compte environ une centaine de réfugiés burundais urbains à Bukavu. Dans la commémoration de la journée de réfugiés à Bukavu, les ACR et la CNR ont ouvert leur réflexion avec les humanitaires et les réfugiés eux-mêmes sur l'avenir du réfugié et leur autonomisation au regard de la rareté des bailleurs de fonds de plus en plus observés pour venir en aide aux réfugiés en RDC. Ernest Mouiro pour VOA Afrique, Bukavu.
Restons dans les Grands Lacs pour parler du pays des mille et une collines au cœur de l'Afrique, le Burundi. Ce pays a aussi traversé une crise qui a poussé des milliers de Burundais à s'éparpiller dans les pays voisins. Par exemple, quelques 50 000 Burundais ont fui la crise dans leur pays pour se réfugier en Ouganda. Idriss Fall a joint Chantal Mutamuriza, qui dirige l'ONG Light for All, ou Lumière pour tous, qui aide les enfants de réfugiés burundais en Ouganda.
D'après les statistiques du ACR, il y a à peu près 50 000 réfugiés en Ouganda. Les difficultés que rencontre toute personne qui est dépourvue de tout, parce qu'un réfugié, c'est déjà quelqu'un qui a fui dans les circonstances où on doit partir très rapidement. Donc, ils ont tout laissé derrière. La première difficulté, c'est le manque d'accès aux besoins élémentaires, notamment l'éducation, les soins de santé, etc. Et je parle de l'éducation parce que c'est le domaine dans lequel j'interviens.
Et qu'est-ce que vous faites justement dans le domaine de l'éducation des enfants des réfugiés burundais?
J'ai créé un programme qui s'appelle « Aucun enfant laissé à la traîne ». C'est un programme de sponsorship en fait, où j'associe un enfant à un sponsor, donc chef de sponsor, qui puisse justement financer la scolarité des enfants, parce que c'est vraiment la plus grande difficulté des parents, parce que l'éducation coûte et les organismes humanitaires, malheureusement, ne s'occupent pas de l'éducation parce que c'est un programme à long terme. Ils sont beaucoup plus dans l'urgence. Et donc, s'investir dans l'éducation, ça veut dire qu'ils vont dire on va être obligé de nous engager sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et je pense que c'est là où réside la difficulté. Et donc, c'est pour cela que moi, je me suis dit, je contacte des gens, des amis, des bienfaiteurs. Donc, une personne dit, moi, je m'occupe de cet enfant pour minimum un an.
Généralement, vous êtes arrivé à vous occuper de combien d'enfants jusqu'ici?
C'est un nouveau projet qui a commencé il y a à peu près, moi déjà, ça fait seulement 18 mois que je suis en Ouganda. Actuellement, à temps plein, j'ai une trentaine d'enfants qui bénéficient de ce programme. Puis il y a aussi des aides ponctuelles, un parent qui essaye et puis au milieu de l'année n'arrive plus à payer les frais scolaires. On arrive quand même à mobiliser de petits fonds pour les dépanner.
Vous pensez quand même arriver à bout et pouvoir aider plus d'enfants dans les années à venir?
Mon rêve, c'est que, comme le dit mon programme, qu'un enfant ne soit laissé derrière. C'est la seule façon de s'en sortir et d'arrêter ce cycle de conflit. L'éducation, c'est un des solutions pour arrêter justement la machine qui produit les réfugiés. Si on arrive à éduquer le maximum d'enfants, de jeunes, on arriverait quand même à les aider à se prendre en charge et à voir beaucoup plus loin. Mon rêve, c'est vraiment de pouvoir éduquer le maximum. Je me dis que l'année prochaine, le minimum sera au moins 200 enfants à qui je pourrais aider.
Chantal Mutamuriza dirige l'ONG Light for All, ou Lumière pour tous, et aide les enfants de réfugiés burundais en Ouganda.
A hand to life, the greatest gift of all.
We are the world, to Michael Jackson. Yes. We are the children. Une chanson en solidarité aux victimes de la famine. Give your hand to life. You can contribute to change the world. Ouais. Et c'est la fin de cette édition par cette chanson dédiée à tous ces réfugiés dans le monde. La mise en onde était assurée par Sims Lumami, à la console Shadrach Franklin, à la présentation Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous apporte une seconde chance qui s'appelle demain. Et chaque jour est une vie. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Passez une agréable soirée chez vous et à très bientôt.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis donnent une autre preuve de leur détermination à aider les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Ils offrent des millions de dollars pour toute information sur plusieurs hauts leaders de l'organisation terroriste liée à Al-Qaïda et basée en Somalie, Arakat al-Shabaab, al-Mujahideen ou al-Shabaab. Le groupe, classé organisation terroriste depuis 2008, combat le gouvernement somalien pour le contrôle du pays et a aussi mené une série d'attaques terroristes au Kenya. Il est responsable de la mort des milliers de civils somaliens, d'activistes, des journalistes, des travailleurs humanitaires internationaux, des civils et des soldats de la force africaine qui aident à rétablir la stabilité et la prospérité dans la région. Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir leur domicile du fait des combats. Sous la désignation d'organisation terroriste, les États-Unis ont imposé des restrictions financières et autres au groupe, bloquant ses avoirs et interdisant aux citoyens américains d'avoir des relations d'affaires avec ses militants. À présent, les États-Unis offrent des primes pour toute information pouvant aider à localiser 5 leaders du groupe. Ainsi, une prime allant jusqu'à 5 millions de dollars est offerte. Pour tout renseignement sur Mohamed Khalaf, de double nationalité somalienne et suédoise, également connu sous le nom de Fouad Sangalé, et Béchir Mohamed Mahamoud, chef militaire d'Al-Shabaab, qui serait né entre 1979 et 1982. Une prime allant jusqu'à 3 millions de dollars est offerte pour toute information pouvant mener à Abdoulane Yare, responsable des médias d'Al-Shabaab. Les États-Unis garantissent que tout renseignement crédible fera l'objet d'enquêtes et l'identité des informateurs sera gardée secrète. Si nécessaire, les États-Unis sont disposés à les réinstaller ailleurs pour leur sécurité. Si vous avez des informations sur l'un de ces hommes, contactez le bureau régional de sécurité à l'ambassade américaine la plus proche et le site d'information www.rewardsforjustice.net ou envoyez un email à l'adresse suivante info@rewardsforjustice.net. En Amérique du Nord, vous pouvez appeler au 1-800-877-3927.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.